J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt, où cette fois-ci nous n'allons pas parler que de forêt et d'arbres, nous allons aborder aussi les animaux avec le sylvopastoralisme. Pour cela, Emmanuel Genevet de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie nous a rejoint. Je signale aussi au passage que c'est l'une de mes élues de la charte forestière du territoire Pays des Cévennes.
Et Aymeric Soulmont nous rejoindra ensuite pour sa chronique Plante des bois dédiée aussi au pastoralisme. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous travaillez à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et vous êtes la responsable du service pastoralisme.
Ah.
C'est ça. Alors, donc, on va commencer plutôt généralistement. Quelles sont les missions du service pastoralisme à la Chambre d'agriculture ?
Alors, le service pastoralisme, en fait, c'est un service à compétence mutualisée sur plusieurs chambres d'agriculture. Il y a pour mission, en fait, alors plusieurs missions, trois missions essentielles. La première, c'est une mission d'appui aux responsables professionnels agricoles dans les négociations sur la mise en œuvre des politiques publiques en matière de pastoralisme, donc. La seconde mission, c'est une mission de recherche et développement sur les techniques de gestion pastorale. Et la troisième mission, qui est une mission plus terrain, celle-ci, c'est une mission d'expertise, de diagnostic pastoraux pour des éleveurs ou des collectivités ou d'autres porteurs de projets qui souhaiteraient en fait développer l'activité pastorale sur un espace. Voilà.
Et comment vous pouvez définir le pastoralisme et ensuite le sylvopastoralisme ?
Alors, le pastoralisme, en fait, je vais vous donner la définition de l'Association française de pastoralisme. Qui définit le pastoralisme comme l'ensemble des activités d'élevage qui valorisent par le pâturage extensif les ressources fourragères spontanées des espaces naturels pour assurer tout ou partie de l'alimentation des animaux. Voilà, donc ça renvoie en fait à une pratique d'alimentation du troupeau sur des espaces naturels. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question, par rapport au sylvopastoralisme, donc dans sylvopastoralisme, on a introduit le préfixe sylvo, qui veut dire forêt, donc je vous apprends rien. Et du coup, en fait, le sylvopastoralisme, ça peut être du simple pâturage en forêt, donc valorisation des espaces boisés par le pâturage pour l'alimentation des troupeaux. Et bon, dans quelques cas, ça peut être aussi une conduite un peu en parallèle de la sylviculture et du pâturage pour arriver à une espèce de symbiose, en fait, dans le milieu entre la valorisation du pâturage, de la forêt pour le pâturage et aussi un entretien des bois qui un jour donneront peut-être une production forestière.
D'accord, merci.
Ça, c'est dans un monde idéal.
Et du coup, pour savoir comment fonctionne concrètement le sylvopastoralisme, tu pourrais nous décrire un peu les étapes quand un agriculteur souhaite se lancer dedans?
Alors, en fait, le système pastoral, les systèmes d'élevage pastoraux sont des systèmes qui combinent un peu, qui alimentent leurs troupeaux en combinant dans l'espace et dans le temps toutes les ressources alimentaires qui peuvent être à leur disposition. Donc, en fait, chaque jour et chaque saison, les éleveurs vont en fait amener leurs animaux sur différents espaces où ils vont trouver à chaque fois un type de ressources bien particulières qui sera disponible à ce moment-là. Donc ils savent que cette ressource est disponible à ce moment-là pour leur troupeau. Donc par exemple, si on parle de sylvopastoralisme, donc des espaces de bois, en fait, ce sont des espaces où les animaux vont plutôt aller à certaines saisons, et en particulier en zone méditerranéenne, plutôt en période estivale, parce que c'est un espace où ils vont trouver de l'ombre, où la ressource se sera maintenue, en fait, malgré la sécheresse. On a un couvert. Et on a aussi des valorisations des espaces boisés en période automnale, voire hivernale. Une partie des bois, en tout cas, à cette saison-là, produisent des fruits, des glands, des châtaignes, qui sont une ressource aussi alimentaire intéressante pour les troupeaux dans ces périodes-là. Puis il y a aussi des forêts qui gardent leurs feuilles en région méditerranéenne, comme les forêts de chêne vert, qui du coup amènent aussi une ressource en feuilles en période hivernale.
Et tu viens de l'aborder un peu, mais quels sont ces atouts quels sont les atouts du sylvopastoralisme?
Ben, en fait, c'est un système intéressant parce que il met pas tous ses œufs dans le même panier. Mmh. En fait, le principe même, c'est de combiner des ressources alimentaires sur différents espaces, et puis aussi ils utilisent aussi un peu de ressources stockées, enfin de foin ou voilà. Mais il y a plusieurs possibilités en fait pour le troupeau pour trouver de l'alimentation, et donc en combinant ces différentes possibilités, ça leur permet d'être un peu moins dépendants de l'une ou de l'autre. Donc le fait d'avoir par exemple pas mal d'alimentation au pâturage, on est moins dépendant du foin qu'on va devoir donner au troupeau. Donc voilà, certaines années quand le foin est très cher parce que l'année est très sèche, ça permet au système d'être un peu plus résilient, on va dire, par rapport au changement climatique, notamment, qui a tendance à tendre un peu les choses sur les ressources cultivées. Alors c'est vrai aussi sur les ressources naturelles, mais voilà, en combinant un petit peu tout ça, en ayant plusieurs possibilités de pâturage dans l'espace, on arrive un peu mieux à tamponner ces moments-là. Voilà.
D'accord, merci.
Et puis en termes d'autres qualités qu'on peut mettre en avant, c'est aussi le bien-être animal, puisque les animaux sont conduits en extérieur, ils sont pas enfermés dans un bâtiment à longueur de journée. Et puis c'est aussi une pratique qui est génératrice de ce qu'on appelle des aménités positives, avec le pâturage entretient les paysages, amène aussi une préservation des milieux par rapport au risque d'incendie, notamment. Mmh. Voilà, donc il y a pas mal d'avantages.
Est-ce que c'est un système qui est difficile à mettre en place, par exemple, si on compare au pastoralisme?
Alors, en fait, c'est un système qui, surtout, nécessite un savoir-faire et une certaine technicité. On a l'impression comme ça que c'est facile d'amener son troupeau dehors et que voilà, il se met à pâturer tout seul. Alors ça, c'est sûr, il va certainement le faire, mais pour pouvoir vraiment arriver à bien alimenter les animaux, trouve bien leur ration entre guillemets sur le pâturage. Mais il faut savoir où les amener, à quel moment ils vont mieux manger telle ou telle plante. Et tout ça, en fait, c'est un savoir-faire qui s'acquiert au fil du temps, qui s'acquiert avec de l'observation, de la pratique, de l'expérience. Donc, on peut pas se lancer là-dedans comme ça, quoi. Il faut y travailler un petit peu. Et c'est certainement moins facile, en fait, que de l'élevage, on va dire, en hors-sol, où là, en fait, on va distribuer une ration à l'auge qui sera, elle, bien maîtrisée. Quand on est en pâturage, on ne maîtrise pas tout à fait tout, et il faut vraiment être très observateur et avoir un peu le sens de ce qui a été ingéré, comment je l'ai fait ingérer, quoi.
Est-ce qu'on a identifié des contraintes particulières principalement, par exemple pour les forestiers ou pour les éleveurs?
Alors, des contraintes par rapport à ce système d'élevage. La contrainte principale, en fait, c'est le foncier, parce que il faut trouver du foncier à pâturer, et Donc souvent, le plus compliqué, c'est d'avoir une convention en fait avec le propriétaire sur le terrain pour être un peu sûr de pouvoir venir à cet endroit-là pâturer de façon régulière. Donc ça, c'est un peu la première contrainte. Après, comme autre contrainte, ben, y a aussi le fait que, notamment dans les espaces forestiers, faut cohabiter avec les autres usagers de l'espace. En particulier les chasseurs, pas les pointer du doigt, mais bon, c'est une activité qui est très présente dans les milieux forestiers et qui nécessite quand même d'avoir un minimum d'entente pour que chacun puisse exercer son activité à sa place et au moment voulu, quoi. Après, y a des contraintes un peu génériques qu'on va retrouver dans tous les milieux, mais on peut dire un petit mot rapide de la prédation qui revient dans nos territoires. Alors heureusement sur notre territoire pas trop encore, mais bon, voilà, il y a un peu des incursions du loup. Et c'est vrai que voilà, dans les milieux boisés, c'est encore moins facile peut-être que dans les zones ouvertes pour bien surveiller le troupeau, le protéger. On est plus vulnérable certainement dans ces milieux-là.
Et du coup, le sylvopastoralisme, ça peut être adapté à tous les animaux, à toutes les essences d'arbres et à tous les reliefs.
Alors, est-ce que c'est adapté à tous les animaux? Bon, ça, a priori, oui. Je pense que toutes les espèces animales peuvent être pâturantes sur des milieux, des espaces naturels, y compris des espaces boisés. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des races plus rustiques que d'autres. Ou des troupeaux qui vont avoir plus l'habitude de pâturer dans ces milieux-là. Donc il y a aussi un phénomène d'apprentissage des troupeaux pour qu'ils soient bien adaptés. Mais sur le principe, aussi bien des moutons que des chèvres que des vaches que des chevaux, c'est tout à fait possible. À partir du moment où ce sont des herbivores, donc ils vont aller manger entre autres de l'herbe, des feuilles et tout ce qui va pouvoir se retrouver sur les parcours, quoi.
Et tu le conseilles aussi.
Et après, le reste de la question, c'était est-ce que c'est dans toutes les situations, un peu toutes les essences d'arbres,
tous les reliefs.
Ouais. Donc toutes les essences d'arbres. Pas complètement, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas consommables, en fait. Donc on va se retrouver peut-être dans un espace forestier où il n'y aura pas grand chose à pâturer finalement pour les animaux. Donc ce sera pas très intéressant, en tout cas du côté de l'éleveur, quoi. Donc je pense notamment aux hêtres, dont la feuille est pas très consommable et le sous-bois il y a quasiment rien dessous, quoi.
D'accord.
Certains peuplements de résineux aussi très fermés. Après le relief ça pose pas forcément de problème, si ce n'est que ça engendre en fait une conduite des animaux qui est particulière, parce que dans des zones très pentues, on va pas pouvoir par exemple poser des clôtures, donc ça va être obligatoirement une conduite du pâturage en gardiennage, avec des contraintes de garde qui vont être particulières, dans un relief très accidenté. Mais sur le principe, les animaux ils peuvent aller à peu près n'importe où.
Ils sont tout terrain.
Pour peu qu'ils aient la rusticité nécessaire. Voilà. Okay. C'est pas des animaux trop habitués à rester en stabulation et à avoir leur foin à l'auge tous les soirs.
Et donc pour en revenir un petit peu sur les arbres, justement, est-ce qu'on peut valoriser ces arbres? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les arbres qu'il y a sur les parcours? Est-ce qu'il y a un entretien particulier à avoir pour les éleveurs?
L'arbre en soi, c'est à la fois une ressource et un abri pour les animaux. Dans la ressource, il y a voilà, il y a la feuille, il y a les tiges, les rejets, les fruits. Et en fait, toute cette ressource, il s'agit de la gérer pour qu'elle se renouvelle d'année en année. Donc effectivement, il faut adapter et la conduite du troupeau et l'entretien des arbres pour assurer ce renouvellement de ressources. Donc de la part du troupeau, de l'éleveur en tout cas. Il s'agit dans ces milieux boisés de garantir en fait une consommation relativement modérée de tout ce qui est arbustif. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en général, il ne faut pas prélever plus d'un tiers de ce qui est consommable pour assurer le renouvellement. Et puis par rapport aux arbres, ce qui est possible pour améliorer un peu la ressource, c'est de réaliser des éclaircies, du recépage. Le recépage qui permet en fait de renouveler les rejets et donc d'avoir de nouvelles pousses qui vont être de nouveau accessibles aux animaux. Et puis les éclaircies peuvent aussi amener un plus par rapport à la ressource en fruits qui peut être augmentée, et puis aussi parce qu'on amène un éclairage au sol qui va être favorable au développement d'autres ressources herbacées, arbustives, qui seront consommables par les animaux. Donc on peut effectivement réfléchir à des aménagements qui combinent un peu ces interventions sur les arbres et un pâturage qui reste un peu modéré.
Et alors justement, comment se porte le sylvopastoralisme sur notre territoire en Cévennes?
Alors sur notre territoire, ce qu'on constate, c'est qu'on a surtout du pâturage en forêt, c'est-à-dire des grands espaces forestiers qui sont pas entretenus pour de la sylviculture, mais qui vont être valorisés par les troupeaux, donc notamment les grands versants de châtaigneraies, les taillis de chêne vert, ces espaces-là sont des espaces utilisés par les troupeaux à certaines périodes de l'année. Après, on a quelques cas assez rares d'éleveurs qui sont également propriétaires forestiers et qui réalisent finalement sur leur propriété des aménagements sylvicoles. Et qui aussi valorisent leur propriété avec le pâturage de leurs troupeaux. Donc en fait, ils organisent un petit peu leurs différentes parcelles sur des choses qui vont être très sylvicoles, des choses qui vont être peut-être plus pour du pâturage au sens strict, et puis des zones un peu entre les deux où ils vont planter des arbres pour faire un couvert aux animaux, ou alors ils vont éclaircir pour que les animaux puissent venir, tout en gardant un couvert forestier et une amélioration des arbres en eux-mêmes pour la production de bois. Donc ça existe, c'est pas le plus fréquent, mais ça existe.
Et Aymeric Sulmont aurait une question à te poser, Emmanuel, si tu es d'accord.
Et oui, je me suis un petit peu renseigné sur les aides qui étaient données aux agriculteurs pour entretenir leurs parcelles. Et les parcelles arborées ont plutôt pas la cote d'un point de vue aide. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur de quelle manière la PAC encourage éventuellement le sylvopastoralisme aujourd'hui?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait, justement, il n'y a pas vraiment d'aide sylvopastorale à l'heure actuelle. Il y a des aides aux améliorations pastorales. Il y a des aides pour la sylviculture, tout court. Mais quelque chose qui fasse vraiment le lien entre la sylviculture et le pastoralisme, ça n'existe pas vraiment. Alors on peut parfois s'appuyer sur les aides aux améliorations pastorales pour réaliser des travaux dans des zones boisées, ça a pu se faire, hein. Notamment il y a une expérience sur le mas de la Barque en forêt communale de Concoule, si ma mémoire est bonne, où on a réalisé des améliorations, des éclaircies assez fortes, hein, dans des un peuplement de pins plus sylvestres,
accrochés,
qui a permis de, avec des aides finalement aux améliorations pastorales, de dégager des espaces pour que les troupeaux puissent mieux passer, et en même temps ce bois qui a été coupé, il a été vendu Ça a fait de la plaquette forestière et ça a permis finalement de faire pratiquement une opération blanche sur le site. Donc il y a des possibilités, mais c'est vrai que ce serait vraiment intéressant dans le cadre de, justement de la prochaine PAC d'imaginer finalement des vraies aides de vos pastorales.
Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, si on regarde le comportement des troupeaux avec les sécheresses successives de ces dernières années, c'est qu'ils vont de plus en plus à l'ombre, pâturés, parce que l'herbe y est plus fraîche. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu à encourager, mais de manière aussi financière, soit la plantation d'arbres, soit l'aménagement de forêts existantes. Mais je pense qu'il faut faire les deux, puisque de plus en plus, les troupeaux vont en forêt pâturée de manière naturelle, puisque sur les milieux ouverts, c'est de plus en plus la fertilité et l'appétence de l'herbe est de plus en plus courte dans le temps, quoi, sur la saison.
Peut-être un prochain lobby des chartes forestières sur le sujet.
Ah, il y a beaucoup de choses à dire.
Voilà, c'est avec nos élus.
En tout cas, c'est vrai que pour moi, avec la problématique du changement climatique, c'est vraiment d'actualité. Parce qu'effectivement, plus ça va et plus les espaces ouverts, eux, sont impactés. Et donc, il va bien falloir que les éleveurs pastoraux se redéploient vers d'autres espaces.
Merci Emmanuel Genevet. Et avant d'achever cette interview, on souhaitait te demander si tu aurais un petit mot forestier à ajouter.
Alors, un petit mot forestier, j'ai un peu réfléchi, moi, en fait, sur cette question. Et en fait, je me suis dit que, avant tout, moi, quand je pense à la forêt, je pense à une ambiance forestière.
Oui.
Qui pour moi est assez différente selon les types de peuplements dans lesquels on se trouve. Et voilà, notamment, pour moi, il y a un peu l'ambiance de la hêtraie, qui est assez magique, c'est un peu la forêt à elfes, à lutins, pour laquelle on imagine plein de choses.
C'est vrai.
La forêt, enfin l'ambiance forestière qui elle est plus agricole sous les châtaigneraies avec un couvert, un ombrage qui est particulièrement favorable, bienfaisant où on se dit bon voilà c'est aussi un espace nourricier, il y a les châtaignes, il y a tout ça et les ambiances plus de méditerranéennes, des taillis de chêne vert où on sent une espèce de coque protectrice de la forêt autour de soi, autour des sentiers, un couvert finalement qui apporte une protection par rapport au vent, par rapport à la chaleur. Voilà, c'est un peu des ambiances particulières dans chacun des peuplements et voilà, un espace toujours un peu c'est toujours un peu spécial, finalement.
Merci pour ce partage de balade forestière. À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Partage 107 FM et on vous propose de retrouver le groupe country finlandais Steve Seagulls avec sa reprise Born to be Wild. Et on vous conseille de visualiser leur clip car ils utilisent un porteur forestier et c'est une utilisation tout à fait originale. Voilà, on vous laisse profiter. Running, head out on the highway, looking for danger.
voici de retour avec Aymeric Sulmont. Bonjour.
Bonjour.
Toujours garde-moniteur au Parc national des Cévennes. Et comme il était avec nous durant l'émission et l'interview d'Emmanuel Genevet, il va nous parler de sylvopastoralisme aujourd'hui.
Oui, j'ai trouvé que son intervention était très intéressante et sa petite remarque sur la forêt, une forêt de son cœur, là, sur une haie très, ça me permet de rebondir sur le fait que nos plus belles forêts dans le Parc national des Cévennes sont justement des forêts qui autrefois étaient pâturées. Je pense notamment à la haie très dite du commandeur qui est sur le mont Lozère. Aujourd'hui, on l'appelle plus vulgairement la haie très du mas de la barque et qui est faite d'arbres très gros, de 1 à parfois 1 mètre de diamètre et plus, espacés de 10 à 15 mètres. Et ces arbres-là ont été autrefois pâturés et surtout élagués, émondés, on dit. C'est-à-dire qu'on a coupé les branches basses pour soit nourrir les troupeaux, soit se faire du bois de chauffage. Et cette pratique ancestrale de d'émondage des arbres, d'élagage des arbres, aujourd'hui on dirait, fabrique énormément de cavités. Et on va voir plus tard en quoi ces cavités sont intéressantes. D'autres forêts très intéressantes du parc des Cévennes qui étaient autrefois pâturées, je pense à la chênaie de paille-olive, qui a été très très étudiée par les naturalistes, et qui évidemment à l'époque était aussi pâturée, aujourd'hui beaucoup moins. Sur le Mont-Aigoual, il y avait la hêtraie chênaie d'Orgon, qui également était pâturée. On a des signes évidents que les arbres étaient élagués. Je pense aussi à la hêtraie de Malmonté. Alors ça vous parle peut-être pas, c'est sur l'extrême est du mont Lozère. C'est non loin du mas de la barque, mais c'est sur le versant qui domine Concoul et Ponteil, et où il y a de très nombreux arbres très 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 beaux et complètement tordus, avec des troncs très courts, de 4 mètres, 5 mètres de haut. Et puis tout de suite, au-delà des 5 mètres, des branches qui partent à l'horizontale, ça donne vraiment on appelle ça des trognes, qui sont très particulières. Et plus loin de nous, mais toujours en Occitanie, j'aime bien faire ce petit lien, c'est la pinède du Marcado, dans les Pyrénées. C'est un exemple de forêt aussi, de pin sylvestre, de très gros pin sylvestre, où il y avait un double usage à la fois de servir d'abri pour le pâturage, mais également il y avait du gémage sur ces pins sylvestres.
Ah, on y revient toujours.
À 1500, 2000 mètres d'altitude. Donc les forêts pâturées existent depuis très longtemps, hein, depuis le Moyen-Âge. Les Espagnols et le Maghreb ont encore aujourd'hui de très très grandes forêts qui sont pâturées. Je sais pas, si on prend l'Espagne, je crois qu'ils déclarent près de 4 millions d'hectares. Ça fait 40 000 km², c'est plus grand que l'Occitanie tout entier, de forêts pâturées. Et ce domaine-là s'appelle localement la DSA. Et c'est du foncier municipal qui peut servir donc à tous les membres de la commune pour le pâturage, pour la récolte de fruits, d'écorces, de champignons et de graines. Et cette pratique très ancienne n'est plus aujourd'hui très courante en Cévennes, en France et même en Cévennes. Et c'est une pratique qui est intéressante, on va le voir après pour la suite. Parce que, comme l'a dit Emmanuel, elle permet d'abord un abri pour les animaux en période climatique plus sèche. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant en Cévennes aujourd'hui de se pencher sur ce qui se passe 500 à 1000 km plus au sud, notamment en Andalousie. C'est que si là-bas, avec un climat plus chaud, ils ont conservé cette pratique depuis des siècles, c'est qu'elle a un intérêt pour le pâturage. Donc il faut vraiment se poser aujourd'hui la question en Cévennes du pâturage de demain. Il sera sans doute beaucoup plus boisé qu'aujourd'hui. Et sans rentrer un peu dans les détails de ce qui sort un peu de ces DSA, bon, en Espagne, on sait qu'on ramasse l'écorce des lièges, on ramasse énormément de champignons en Espagne, beaucoup de glands qu'on ramasse très peu en Cévennes et en France. Et évidemment, on fait des cochons sous ces chaînes de la DSA espagnole. Des cochons et puis beaucoup de moutons. Voilà, et donc ces pratiques étaient sans doute présentes un peu plus de manière moins organisée peut-être en Cévennes il y a quelques siècles, on va dire. Elles reviennent en force, et ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui ce que donnent ces forêts qui ont été pâturées. Je disais que c'est parmi les plus belles, mais c'est aussi parmi aujourd'hui les plus riches d'un point de vue biodiversité, c'est-à-dire que ces arbres-là sont à la fois très vieux, mais ils sont porteurs d'énormément de cavités, pour la bonne et simple raison, qui sont très souvent élagués. Et qu'en élaguant des arbres, on fait parfois des cicatrices aux arbres qui cicatrisent mal et qui donnent des cavités. Et si des fois ça donne simplement une loge pour un pic ou pour une chouette ou pour un loir, etc., ça peut aussi donner des loges pour des animaux ou des plantes beaucoup plus rares. Et j'en viens du coup au sujet de ma chronique sur quelques espèces originales. Et j'avais du coup envie de vous parler d'un insecte qui est original à ce genre de forêt. On s'est aperçu en fait que l'osmoderme, qui est un coléoptère, une forme de cétoine noire, brillante, assez grosse, hein, de 3 cm, qui s'appelle aussi pic-prune, ce coléoptère est présent uniquement dans des chênaies qui autrefois étaient pâturées. On en a sur le versant nord de l'Aigoual, on en a sur le versant ouest du Mont-Lozère, on a aussi sur le versant ouest du Bougès. Enfin, on a quelques forêts qui sont encore occupées par cet osmoderme, qui est un insecte protégé et très exigeant sur son habitat, puisqu'il a besoin de cavités dans de chênes avec un humus assez important à l'intérieur. Et c'est là-dedans que la larve se développe. Et l'originalité de cet insecte, c'est qu'il s'appelle pic-prune. Et pic-prune parce que, en fait, ça fait référence à l'odeur du mâle qui, pendant la période des amours, émet une phéromone pour attirer la femelle qui a une odeur d'abricot. Et c'est assez génial de courir après cet insecte en plein été. Alors certes, il fait très chaud, parce qu'on prospecte ça en plein été, entre 15 juillet et 15 août. Et donc, on se met dans des forêts, des vieilles chênaies. On met son nez au vent et on sent. Et si on sent une odeur d'abricot, c'est génial. On sait qu'il y a un osmoderme pas loin. Et si on remonte la piste tel un loup, on arrive à retrouver l'animal, et ça nous est arrivé quelques fois avec des collègues, de tomber sur le mâle posé pas très loin de sa cavité, les pattes en l'air, et qui émet cette phéromone qui a vraiment une odeur qui porte assez loin, mais qui se sent que dans les journées les plus chaudes de l'été. Et donc ça, c'est vraiment lié. Ça fait vraiment tout à fait écho au sujet d'aujourd'hui, qui sont les forêts pâturées, à condition qu'elles soient régulièrement élaguées et qu'on crée des cavités en fait dans ces forêts. Et puis c'est une toute petite anecdote, parce que normalement je suis censé parler que de botanique, mais voilà, il existe une plante, il en existe plusieurs en fait, mais je voulais en parler d'une qui a exactement la même écologie que l'osmoderme, c'est-à-dire qu'elle recherche des cavités plutôt dans du chêne, mais parfois sur du hêtre, et bien souvent dans des vieilles forêts pâturées également, puisque c'est là où il y a le plus de cavités en concentration. Et cette petite mousse qui porte un nom bizarre, elle s'appelle le Zygodon de Forster. Forster, c'est le nom d'un botaniste, et Zygodon, c'est son petit nom. Ce zygodon, il est très exigeant, puisque lui demande des cavités qui prennent l'eau et qui prennent suffisamment d'eau jusqu'à déborder de cette cavité. Et au débordement de cette cavité, en fait, le liquide qui sort de cette cavité est tellement chargé de tanins, d'acide organique et tout ça, qu'il est totalement toxique pour tout le reste de la végétation. Donc en aval, en général, d'une cavité remplie d'eau, eh ben, on n'a pas du tout de végétation. Toutes les mousses meurent, les lichens meurent. Il n'y a que deux espèces qui tolèrent. C'est des espèces très patrimoniales et très rares en France et en Cévennes, notamment le Zygodon forsteri, qui va vivre sur le débordement de cette mare qu'on appelle une dendrothème. Enfin, je vous donne des mots bizarres. Une dendrothème, c'est donc une mare dans un arbre. Eh ben, sur le débordement, pousse cette mousse très exigeante. Et toujours, la plupart du temps, on s'aperçoit que c'était des vieilles chênaies qui étaient autrefois été pâturées. Donc, le pâturage en sous-bois peut avoir un impact tout à fait positif sur la biodiversité, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il peut aussi en avoir un négatif. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut conserver des milieux ouverts et également réfléchir à comment organiser un pâturage en sous-bois qui permet de conserver la forêt sur du long terme. Voilà pour les petites anecdotes mousse et osmoderme.
Et ben, merci encore Aymeric Silmon pour cette rubrique toujours passionnante. À bientôt.
À bientôt.
Cette émission de Palabre en forêt s'achève et donc on va retrouver le petit coin des petites annonces où on va vous relayer les messages de transmission reprise des professionnels donc de la filière forêt-bois. Donc on se base sur le site de relancecevennes.fr et là on a trouvé une annonce, donc c'est à Langogne, c'est une entreprise de menuiserie du bâtiment qui est spécialisée dans le bois et en particulier la confection de fenêtres en châtaignier. Donc c'est en fait à 30 minutes de Langogne, c'est une entreprise qui a une grande notoriété, Il y a un bâtiment de 500 mètres carrés fonctionnel, lumineux et isolé. Il y a un salarié et deux apprentis. Et le menuisier s'arrête en 2022 pour partir à la retraite. Donc le fonds de commerce est à 40 000 euros. Les murs sont en location à 1 000 euros par mois ou à la vente à 120 000 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de relanceseven.fr si vous êtes intéressé.
Et nous ne pouvions pas achever malheureusement cette émission sans rendre un hommage à Luc Tessonnière et à Martial Guérin, gérant et employé de la scierie Tessonnière au Plantier, disparu de manière tragique récemment. C'était une figure de la filière forêt-bois Cévenol, notamment pour la passion du bois de châtaignier, et nous ne les oublierons pas. On vous dit à bientôt en septembre, parce qu'il va y avoir la pause estivale, et si toutefois vous ne pouvez pas attendre d'ici là, vous pouvez toujours réécouter les émissions de Palabre en forêt sur le site internet de Radio Barthas, www.radiobarthas.net. À bientôt Lucille.
À bientôt Virginie.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Barthas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.